cobuzz.com. Rencontre par Yves Riesel.
Mesdames, messieurs, c'est du théâtre des Champs-Élysées à Paris que la radiodiffusion télévision française vous présente aujourd'hui La Chartreuse de Parme, opéra en quatre actes d'après le roman de Stendhal, livret d'Armand Lunel, musique d'Henri Sauguet. En voici la distribution. Geneviève Moisan, Clélia Conti, Denise Charlet, Gina, d'abord comtesse Pietranera, ensuite duchesse de San Severino, Joseph Perron, Fabrice Edeldongo, Xavier Depraz, le général Fabio Conti, Claude Gentil, le comte Mosca della Rovere, Claudine Verneuil, Théodolinde l'aubergiste, Jean Molien Ludovic le cocher, Louis-Jacques Rondeleux Barbone, le greffier de la prison, Jacques Mars, le maréchal des logis, Lucien Levaneau et André Murant, les gendarmes, Pierre Germain un geôlier, Christiane Jacquin une voix et Pierre Gianotti, le chanteur de sérénade. Le texte de présentation est de Claude Rostand. La mise en onde musicale est assurée par Lucien Duchemin. Les interprètes, l'Orchestre philharmonique de la radiodiffusion télévision française et les chœurs, chef des chœurs René Alix, sont placés sous la direction de Manuel Rosenthal.
C'est entre 1927 et 1936 que Henri Sauguet composa La Chartreuse de Parme, opéra en quatre actes et 10 tableaux sur un livret d'Armand Lunel, d'après le roman de Stendhal. L'ouvrage, qui est dédié à Darius et Madeleine Millot, fut créé à l'Opéra de Paris le 16 mars 1939, dans d'admirables décors que Jacques Rouchet avait demandé au peintre Jacques Dupont. Les grands rôles étaient tenus par Germaine Lubin, Raoul Jobin, Andrèse, Huberti et Jacqueline Courtin. Il est permis de souhaiter que cet ouvrage, conçu dans l'esprit du grand opéra de style verdien, transposé dans le langage musical de notre époque, ne tarde plus à reparaître à l'affiche. Si la critique de l'époque avait été partagée sur certains points de détail, chacun s'était accordé pour reconnaître que le compositeur avait remarquablement su créer un climat musical correspondant à l'ambiance poétique de pré-romantisme italien du chef-d'œuvre de Stendhal. Et l'on avait également loué l'habileté avec laquelle Armand Lunel avait tiré un livret équilibré et logique, retenant l'essentiel de cet immense roman, infiniment trop riche en épisodes et en subtil développement psychologique, pour pouvoir entrer en sa totalité dans le cadre normal d'un opéra. Le librettiste a, en effet, dû contracter beaucoup. Mais il a su le faire de façon remarquable. Et chacun des personnages principaux y demeure dans sa juste perspective psychologique et dramatique.
Première distribution, l'histoire de sa création mouvementée.
C'est un long chemin.
Compliqué, très longue. Sa malchance lors de la création.
Espérons que le mauvais sort qui semble s'être acharné sur cette œuvre sera conjuré cette fois-ci.
Pour sûr, à Marseille, il ne se passera rien. La figure de Jacques Rouchet, sans qui, bien entendu,
rien ne se serait fait.
La figure de Jacques Rouchet et son importance,
bien sûr,
à l'opéra. Et puis le devenir de cette œuvre après sa création. Voilà, un grand programme que je vous donne.
Alors, je vais essayer de tout couvrir. La Chartreuse, c'est évidemment l'œuvre d'un long chemin. Et peut-être avant d'en raconter la genèse, juste préciser que finalement, Henri Sauguet disait, et c'était tout à fait franc, qu'il avait en quelque sorte grandi en même temps que Fabrice Del Dongo. C'est-à-dire que La Chartreuse de Parme, c'est l'œuvre d'un jeune compositeur qui va petit à petit passer à la haute maturité. Et Sauguet grandit dans son opéra en même temps que les personnages gagnent en profondeur. Il y a vraiment une superposition entre l'homme, l'art et finalement le cheminement de la composition. L'idée de La Chartreuse de Parme naît évidemment de ce désir d'opéra qui est lié à la sensibilité profonde de Sauguet, mais le projet va naître en 1927 à Monte-Carlo au moment de la création de ce ballet La Chatte. Donc Henri Sauguet avait conçu sur un livret de Boris Coquenot, d'après la fable d'Ésope, pour les ballets russes de Diaghilev. Et bien pendant ce séjour à Monte-Carlo, où le jeune Sauguet, je dirais entre guillemets le jeune provincial, est absolument ébloui par la qualité de vie qu'on lui propose, par l'hébergement à l'hôtel qui est organisé par les ballets russes, mais un peu perdu dans ce tourbillon monégasque, Henri Sauguet a, je dirais, une sorte de port d'attache, de point de chute à Monte-Carlo qu'il doit encore une fois à l'amitié indéfectible de Darius Milhaud. Le port d'attache, c'est la maison d'Armand Lunel. Armand Lunel, qui a obtenu à ce moment-là le prix Renaudot pour Niccolò Peccavi et qui était un condisciple de Darius Milhaud au lycée Minier d'Aix-en-Provence, c'est l'ami de toute une vie également pour Darius Milhaud. Et à ce moment-là, il a déjà été pour Milhaud le librettiste des Malheurs d'Orphée, bientôt d'Esther de Carpentras, puis par la suite de Maximilien et même un petit peu plus tard de David. Et Darius Milhaud a simplement recommandé à son ami Lunel, qui est professeur de philosophie au lycée de Monaco, un petit peu ce jeune ex-bordelais qui risque d'être un petit peu perdu dans ce tourbillon. Une amitié se noue entre les deux hommes. Henri Sauguet devient même un commensal habituel de la table de la famille Lunel. Et c'est au cours d'une promenade, c'est rigolo, mais c'est au cours d'une promenade au tir au pigeon que Armand Lunel lance la question. Et alors après La Chatte, qui paraît plutôt bien marcher, vous avez envie de faire quoi? Vous auriez un projet? Et Sauguet répond du tac au tac, je rêve de faire un opéra, de faire un grand opéra, d'assumer ce rêve, de faire un grand opéra romantique. Et c'est Lunel, en fait, qui dit, mais vous avez une idée de livret? C'est Lunel qui va proposer à Sauguet cette idée, sur laquelle il tombe immédiatement d'accord avec enthousiasme. Et pourquoi pas, rêvons, pourquoi pas La Chartreuse de Parme? Je dis rêvons parce qu'a priori, c'est inadaptable. Accord enthousiaste. Et dans les semaines qui suivent, bien que Sauguet soit retourné à Paris, que Lunel ne bouge pas de Monaco, une volumineuse correspondance est échangée et Armand Lunel commence à travailler sur un découpage du livret en accord avec les intentions d'Henri Sauguet. Car dès le départ, cette dimension du renoncement doit être celle qui sera mise en évidence dans l'opéra. Autrement dit, il n'est pas question que le livret détaille ou qu'on mette en musique les épisodes qui vont suivre en fait ce qui constitue le dernier tableau de l'opéra, c'est-à-dire l'enfant caché de Fabrice et de Clélia, l'enlèvement. Il fallait que l'opéra s'arrête à l'entrée de Fabrice à La Chartreuse de Parme et à ce renoncement qui seul permet de sublimer cet amour. Armand Lunel se met donc au travail, le découpage est bientôt achevé. C'est Henri Sauguet qui va taper le livret à la machine, dit-il précisément, mon passé de dactylographe me valait bien ça. Et immédiatement, il en commence la composition comme un cadeau offert à la fois à la musique et à lui-même, c'est-à-dire sans penser, sans espérer et sans même souhaiter au départ que l'œuvre soit représentée. Et la composition va, bon an mal an, occuper Henri Sauguet pratiquement pendant 10 ans, de 1927 jusqu'aux années 36, jusqu'à l'année 36 où il a à peu près terminé la partition Champiano. Il confie qu'il y a travaillé parfois en dents de scie, mais que les dernières années, il n'a pratiquement fait que cela. C'est-à-dire qu'il s'est projeté tout entier dans cette œuvre, dont il considère qu'elle est celle qui lui correspondra le plus. Une sorte, c'est presque comique, mais une sorte de testament qu'on écrirait à pas tout à fait 35 ans. La composition avance, mais secrètement. Secrètement, à part quelques amis proches, personne n'est au courant de ce projet. Mais on n'est parfois jamais trahi que par ses amis, mais Dieu merci, on n'est parfois jamais aussi bien servi que par ses amis. Et c'est une confidence indiscrète qui va mettre un petit peu au courant de la chose un personnage assez influent qui était Julien Quint. Julien Quint était à ce moment-là administrateur de la Bibliothèque nationale et membre de l'Institut. Julien Quint étant au courant, au cours d'une des soirées mondaines auxquelles Henri Sauguet participait, tantôt chez les Noailles, tantôt chez les Polignac, à l'occasion d'entendre de brefs extraits de La Chartreuse, joués et chantés par Henri Sauguet qui s'accompagne au piano. Il trouve un certain nombre de qualités à l'œuvre et prend sur lui d'en entretenir un de ses collègues à l'Institut la semaine qui suit. Le collègue à l'Institut, c'est Jacques Rouchet, qui préside à ce moment-là, depuis déjà pas mal d'années, aux destinées de l'Opéra de Paris. On redira jamais assez à quel point l'action de Jacques Rouchet a été décisive dans le destin de l'Opéra de Paris.
Il a payé l'Opéra de Paris de ses propres deniers pendant des années. D'où tenait-il sa fortune ?
Essentiellement de son mariage. Essentiellement de son mariage et de la fortune.
C'est une bonne raison de se marier, en effet.
C'est une bonne raison. Et somme toute, une fortune qui aurait pu être employée plus mal qu'elle ne l'a été. De fait, il y a une structure très particulière à l'Opéra de Paris, parce qu'en théorie, il y a un collectif, un groupe, une sorte de comité de lecture qui est chargé d'approuver les œuvres qui sont admises à la création. Dans la réalité des faits, Jacques Rouchet opère le choix des œuvres dont il dit celle-ci mérite d'être créée, celle-ci non, celle-ci peut attendre un peu. Et bien Julien Quin s'entretient avec Jacques Rouchet, un jeune compositeur qui travaille sur une Chartreuse de Parme, et Rouchet répond, très, très grand seigneur, comme il était, avec ce côté parfois en apparence un peu négligent, oui, on m'a parlé de ça, oui, j'entends ça. Et c'est lui, fait extrêmement rare, qui va téléphoner à Henri Sauguet, extrêmement, extrêmement surpris et pas préparé du tout à la chose, qui téléphone à Henri Sauguet en disant « J'ai entendu que vous aviez préparé et même achevé un ouvrage lyrique sur la Chartreuse de Parme. » Et Sauguet, très intimidé au téléphone, dit « Écoutez, je serais assez désireux de l'entendre, venez donc me montrer ça. » Le rendez-vous est pris. Et Henri Sauguet raconte dans ses mémoires avec beaucoup de truculence son arrivée extrêmement intimidée dans le Palais Garnier. Sa rencontre avec la secrétaire de Jacques Rouchet, mademoiselle Régnier, que tout l'établissement appelait familièrement la Régnier, le voici introduit dans un vaste salon avec en présence d'un huissier avec la grande chaîne, et lui, avec son énorme serviette en cuir dans lequel se sert la partition chant piano de la Chartreuse de Parme, et qui attend que monsieur le directeur soit prêt à le recevoir. Et il raconte d'ailleurs qu'il se sentait tellement peu à sa place qu'il finalement il s'est levé pour partir. Et qu'au moment où, il était en train de ressortir de la grande salle, l'huissier est rentré en disant « Monsieur le directeur vous attend ». Alors, la fuite n'étant plus possible, il est rentré dans cet immense bureau de Jacques Rouchet, lequel précise immédiatement à mademoiselle Régnier « Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte, je suis en audition. » Il s'y est tenu, puisque au bout à peu près d'une heure d'audition, le téléphone à mademoiselle Régnier est tout de même rentré. Il y avait un ministre au téléphone, ce à quoi Jacques Rouchet a répondu très froidement « Je crois vous avoir dit que j'étais en audition. Monsieur le ministre attendra. » Dès l'entrée d'Henri Sauguet, un petit malaise temporaire s'installe. Jacques Rouchet le regarde avec ce petit air un peu ironique qu'il avait toujours sur le visage, en disant « Je ne crois pas voir vos interprètes. » Henri Sauguet ignorait que lorsqu'on était convoqué en lecture à l'Opéra de Paris, il était de bon ton d'arriver avec son pianiste et ses interprètes.
Il était venu seul.
Il était venu seul avec sa serviette et sa partition. Et le voici donc encore plus intimidé, qui s'installe au piano et qui commence, bon an mal an, dit-il, sautant par là quelques passages, supprimant les coloratours, je n'étais absolument pas à même de faire. Il commence à jouer son œuvre et puis, au bout à peu près de deux heures...
De la chanter également.
De la chanter également. De la chanter et même de suggérer oralement certains mouvements scéniques. Au bout de deux heures, donc loin d'être arrivé à la totalité de la partition, Jacques Rouchet arrête en disant « Écoutez, ce que j'ai entendu me suffit. Votre ouvrage est très musical, il est bien construit, et c'est avec beaucoup de plaisir que je le monterai. Nous commencerons les répétitions en 1938, soit à peu près un an et demi, deux ans après, théoriquement, l'entrevue qui est en train de se dérouler. Vous pouvez commencer à l'orchestrer. » Henri Sauguet, évidemment, qui n'aurait jamais oser rêver un seul instant un destin pareil. Lui, l'autodidacte dont une partie du Paris musical se gausse volontiers, lui, celui que parfois on désigne du doigt sans trop l'oser sous le vocable aimable amateur, le voici bientôt programmé sur la scène de l'Opéra de Paris. Évidemment, il sort de là tout à fait exultant, se jette sur le premier téléphone venu pour appeler ses amis proches, et là, les amis proches le font quelque peu déchanter en disant « Mais est-ce qu'on t'a signé un billet de réception pour cette œuvre ?»« Ah non, je n'ai que la promesse. » »« Oh, alors les promesses !» Pourtant, les contacts avec Jacques Rouchet vont demeurer suivis, et Jacques Rouchet va tenir sa promesse. Et très vite, alors que Henri Sauguet commence à orchestrer, ça représente quelques 1000 pages d'orchestration, la Chartreuse de Parme, alors qu'il commence à orchestrer son œuvre, Jacques Roucher lui pose déjà la question centrale. Est-ce que vous avez une idée de la distribution ? C'est une drôle de question à poser à un compositeur qui n'espérait même pas que l'œuvre connaîtrait un jour les honneurs de la scène. Mais Henri Sauguet y a pensé, effectivement. Pour le rôle de Fabrice, il a pensé très vite à Raoul Jobin, dont il apprécie le timbre, l'art, la projection, la présence en scène. Bonne idée. Pour Jacques Roucher, c'est une excellente idée. Pour le rôle de la Sainte Séverine, Henri Sauguet ose timidement demander à Jacques Roucher pourquoi pas Germaine Lubin.
La grande star de l'époque.
La divine, comme on l'appelait à l'époque. Et Jacques Roucher fronce le sourcil, disant, vous savez, elle ne crée pas d'œuvres nouvelles. Elle chante du répertoire, mais de là à l'intéresser à une œuvre en création, et puis de l'ampleur de celle-ci, je vous en laisse la responsabilité. Et c'est Henri Sauguet qui va donc convaincre Germaine Lubin d'accepter le rôle de la Sainte Séverine, moyennant, il faut bien le dire, l'ajout de quelques aigus dans la partition, Madame Lubin ayant très rapidement constaté que le rôle de Clélia en comptait plus que le sien, ce qui n'était pas acceptable. Henri Sauguet raconte d'ailleurs dans ses mémoires qu'il s'est même mis à genoux dans la loge de Madame Lubin pour qu'elle accepte parfois, suite à quelques coups de colère, de reprendre les répétitions. Pour le rôle du comte Mosca, plusieurs amis de Sauguet lui avaient conseillé de solliciter une basse qui faisait partie de la troupe de l'Opéra de Paris, mais qui était un peu moins employée à ce moment-là, et dont la noblesse de la voix et aussi la noblesse d'allure convenait merveilleusement au rôle, c'était Andrèse. Et pour le rôle du général Conti, c'était Lucien Huberti. Restait le rôle de Clélia, pour lequel Henri Sauguet souhaitait la voix et la présence de Jeannine Michaud. C'est la seule opposition que Jacques Roucher ait formulée du bout des lèvres en disant « Je n'imagine pas Michaud dans le personnage. Si vous y tenez, je vous la donnerai. » C'était l'expression consacrée. « Si vous y tenez, je vous la donnerai, mais je ne l'imagine pas dans le personnage. » Et ce sera...
Jeannine Michaud était en troupe à l'opéra à l'époque.
Absolument. Et sur les conseils de Jacques Roucher, c'est Jacqueline Courtin qui va créer le rôle de Clélia. Et se pose également bientôt la question des décors. L'orchestration est avancée, elle est presque terminée. Pour les décors, là aussi, Henri Sauguet ose conseiller à Jacques Roucher, un jeune peintre décorateur dont il est très proche et qui sera même le compagnon fidèle de toute une vie jusqu'à sa disparition. Il s'agit de Jacques Dupont. Jacques Dupont, jusque-là, n'a pas réalisé de décors pour des productions lyriques. Et encore une fois, avec beaucoup d'ouverture d'esprit et de noblesse, Jacques Roucher lui dit « Écoutez, qu'il me réalise donc quelques esquisses, portez-les-moi et nous trancherons immédiatement. » Les esquisses sont réalisées et on sait la beauté des aquarelles de Jacques Dupont pour les projets de décor. Adhésion immédiate de Jacques Roucher et ce sera une production splendide du point de vue scénique. Les photos de scène dont on dispose et les maquettes de décor sont des choses absolument splendides. Arrive donc la période des répétitions et la fin de l'orchestration pour laquelle, il faut quand même préciser, à l'époque, lorsqu'un compositeur voyait son œuvre retenue par l'Opéra de Paris, on lui octroyait une pièce à l'intérieur du Palais Garnier pour qu'il puisse terminer son orchestration tranquillement. Ça a été le cas pour Sauguet, qui disait « on était finalement logé somptueusement ». Se posent alors quelques questions graves. La question de l'édition et de la gravure de la partition. Aucun éditeur, à l'époque, ne voudra de la Chartreuse de Parme.
Ainsi tu m'aimes, c'est ton vrai. Un aveu si doux. être malheureux, j'en ai toujours douté, tant ce bonheur divin semblait inaccessible à mon cœur, frémissant de son indignité.
C'est une mésaventure qui arrivait souvent, qu'une œuvre créée à l'opéra ne trouve pas d'éditeur.
C'était peu fréquent. Il faut bien reconnaître que c'était peu fréquent.
Et d'où cela, alors ? Qui étaient les éditeurs avec lesquels Seguier avait eu l'occasion de travailler auparavant, alors, et qui auraient pu l'avoir refusé ?
Certaines œuvres étaient éditées chez Deiss, l'autre l'était chez Eschig, d'autres l'étaient chez Eschig. À ce moment-là, aucun éditeur n'a voulu prendre le risque. Alors, c'était tout simplement un gros risque. Il fallait graver un matériel énorme. Rien ne garantissait le succès de l'œuvre. Et donc, peut-être, en somme, une gravure inutile.
Ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont comme tout de même, dans ces années-là, passé leur temps à graver des œuvres inutiles.
Absolument. Et là, ce qui va se passer pour la Chartreuse de Parme, c'est qu'Henri Sauguet va devoir financer une partie de la copie du matériel, ce dont il n'a absolument pas les moyens. Il va donc lancer une souscription auprès d'un certain nombre d'amis qui vont généreusement aider au moins pour les premières copies de la Chartreuse de Parme. C'est une œuvre qui n'est toujours pas éditée au moment où nous parlons. L'Opéra de Marseille a fait graver un matériel après avoir photographié, je dis bien photographié, non pas photocopié, la partition, qui est toujours l'unique partition qui est propriété de la Bibliothèque Musée de l'Opéra de Paris. Donc, même aujourd'hui, ça a été encore une grande aventure. Cet obstacle étant enfin surmonté, et Henri Sauguet d'ailleurs mentionne dans ses mémoires que tout a été problématique, car enfin, la première gravure et les copies ont été faites sur un papier qu'il a évolué de grande qualité, sans réaliser que c'était un papier très lourd. Et donc les transports à dos d'homme dans le métro de ces énormes rames de partitions lui ont posé beaucoup de problèmes. Arrive donc la fin des répétitions et la générale. La générale, évidemment, de tout Paris musical se presse dans la salle. Il y a les amis. Il y a les amis du groupe des Six. Il y a l'ami Darius Milhaud. Il y aura 8 représentations de la Chartreuse de Parme. Et Darius Milhaud assistera aux 8 représentations avant que la mobilisation générale n'entraîne de façon logique la fermeture des théâtres. Mais s'il y a les amis dans la salle ce soir, il y a aussi tous ceux qui doivent une revanche à Henri Sauguet. Car en dehors de son activité de compositeur, il exerce, et parfois avec la dent très dure, depuis pas mal d'années, une activité de critique. Beaucoup de musiciens sont dans la salle qui n'attendent enfin que l'occasion de lui rendre la monnaie de sa pièce.
Et Reynaldo Hahn avait dû subir ces assauts critiques ?
Je ne pense pas, parce que la production de Reynaldo Hahn, je pense à des choses comme Le Temps d'aimer en 1933, avait au contraire été très bien accueillie par Henri Sauguet, comme d'ailleurs par Arthur Honegger, cette génération de musiciens. Mais il y a beaucoup d'animosité dans la salle, et la générale n'est pas un échec, mais elle est glaciale. Sauguet est dans la loge centrale aux côtés de Jacques Roucher, et ne sera même pas appelé sur scène. Les applaudissements ne seront pas assez fournis pour l'appeler sur scène. Il est évidemment complètement meurtri, démoralisé dans la loge, et Jacques Roucher, avec toujours cette ironie un peu distante, mais le console en lui disant « Que voulez-vous, mon cher ami ? Ils vous rendent la monnaie de votre pièce. » Reste la première publique qui a lieu donc 2 jours après, et qui est un véritable triomphe, avec plus d'un quart d'heure de rappel à la fin. Et Henri Sauguet mentionne encore une fois dans son autobiographie, perdant la tête, j'embrassais les mains de Raoul Jobin sur scène, tant il avait été sublime dans le dernier tableau, dans le sermon aux Lumières. Malheureusement, évidemment, là, l'histoire rattrape le destin de l'œuvre. À la 8e représentation, la mobilisation générale entraîne la fermeture des théâtres. L'œuvre ne sera pas reprise à la Libération, malgré le succès qui a accompagné les 8 représentations. Le temps a passé, puis les moyens ne sont plus les mêmes.
Rouchet était directeur de l'opéra pendant l'occupation. Il n'a pas eu l'occasion de reprendre l'œuvre, néanmoins.
L'occasion ne s'est pas présentée. Et Rouchet a préféré à la Libération commander une nouvelle œuvre à Henri Sauguet, une œuvre beaucoup plus modeste en un acte qui sera La Gageure imprévue, qui sera créée à l'opéra comique. Les moyens et les circonstances ne permettant pas la reprise de La Chartreuse de Parme. Et l'œuvre n'a plus connu par la suite qu'une unique représentation en 1968 à Grenoble pendant les Jeux Olympiques. Une production dont Armand Lunel disait qu'elle ne s'était pas faite dans de bonnes conditions et qu'au demeurant elle avait été entachée par des coupures qui étaient vraiment vraiment importantes. Le seul témoignage qui puisse exister de La Chartreuse de Parme actuellement, et le seul pour quelques jours encore, puisque bientôt nous pourrons l'entendre in vivo, c'est l'enregistrement qui a été réalisé par les forces de la radio en 1959, sous la direction de Manuel Rosenthal, qui a été un grand défenseur de l'œuvre et d'une façon générale de la musique d'Henri Sauguet. Mais encore une fois, le destin semble s'être acharné sur La Chartreuse de Parme. Car la distribution réunie par la radio était éminemment prestigieuse. Geneviève Moisan dans le rôle de Clélia, Denise Charlet dans le rôle de la Sainte Séverine, Xavier Deprat dans le rôle, du général Conti. Enfin, vraiment une distribution de toute beauté qui va changer au dernier moment. Le ténor prévu ne peut pas assurer le rôle. Il faut quelqu'un qui puisse quasiment, car s'il s'agit non pas d'un enregistrement en studio, mais d'un concert public au Théâtre des Champs-Élysées, il faut quelqu'un qui chante la partition pratiquement à vue. Ce sera Joseph Perron, qui était un musicien extraordinaire, un lecteur d'une sûreté absolue, un technicien, mais pas tout à fait le ténor lyrique dont l'ampleur aurait convenu au rôle de Fabrice, qui est écrasant, car sur l'ensemble des 10 tableaux qui composent l'œuvre, Fabrice est pratiquement en scène du premier jusqu'au dernier. Henri Sauguet le dit, en composant dans mon esprit une œuvre qui n'était pas destinée à être représentée, je me suis permis toutes les folies, y compris celle d'un rôle dont les dimensions excèdent parfois un peu la capacité physique d'un interprète. On ménage quelquefois des temps de sortie ou des tableaux où l'interprète n'est pas présent. Pas tout à fait le cas dans La Chartreuse de Parme. Et donc cet enregistrement radio, qui est un enregistrement de grande qualité, souffre d'une part des coupures qui étaient imposées par le format radiophonique. Il manque plusieurs tableaux complètement. Le tableau qui est censé se passer dans une loge de la Scala de Milan est réduit à sa plus simple expression, ce qui rend le suivi de l'action impossible par l'auditeur. Et puis évidemment, disparité entre certaines voix qui sont vraiment des voix d'ampleur quasi wagnérienne, et la voix de Joseph Perron, qui était plus à l'aise dans les œuvres de demi-caractère. Même dans cette version radiophonique, une sorte de malédiction qui semble s'être acharnée sur cette œuvre.
Alors parlons maintenant, et pour finir, de la version de Marseille. D'abord, à qui devons-nous cette initiative et ce miracle, ce petit miracle de la recréation, on va dire ça comme ça, de La Chartreuse de Parme à Marseille?
Alors, je dirais, d'une façon générale, au courage de cette maison d'opéra qui a, depuis de nombreuses années, je pense aux années de direction de René Auffant, à l'heure actuelle, c'est Maurice Xiberaz qui assure la direction artistique, à cet opéra qui n'est que municipal, Jeannine Imbert est l'élu, donc délégué à l'opéra, cet opéra qui n'est que municipal a eu le courage d'afficher une programmation avec au moins une œuvre rare par an. Je mentionne pêle-mêle et uniquement pour mémoire les ouvrages de Jean-Michel Damas, qu'il s'agisse de L'Héritière ou de Colombe, Henri Tomasi avec L'Atlantide, avec San Piero Corso, Giancarlo Menotti qui a été plusieurs fois à l'honneur avec Maria Golovine ou la scène de Bleecker Street, etc. On doit donc cette reprise au courage de cette maison qui est soutenue vraiment par la municipalité, à la volonté, pour La Chartreuse de Parme, vraiment à une volonté de Maurice Xiberaz, qui considérait comme un devoir, plutôt ciel que tous les directeurs de théâtre se considèrent les mêmes devoirs, considérait comme un devoir de rendre vie à cette œuvre, de réveiller cette belle bois dormant. Et c'est vraiment cette volonté de longue haleine, car c'est un projet que Maurice Xiberaz mûrit depuis pas mal d'années, et c'est vraiment le fruit d'une volonté de longue haleine qui entraîne aujourd'hui ce bonheur de voir cette œuvre sur scène.
Quelques mots sur la production elle-même. Est-ce que vous en avez vu déjà des éléments? Est-ce que vous avez assisté à des répétitions?
Je n'ai pas assisté à des répétitions complètes. Ce que j'ai pu en voir jusqu'à aujourd'hui promet d'une part un plateau qui est très homogène, un travail d'orchestre mené par Lawrence Foster avec passion, avec passion, avec désir, avec envie et avec joie. Une scénographie qui réservera quelques très belles surprises aux spectateurs, une scénographie très étudiée, à la fois très sobre, très fort, mais en rien misérabiliste, ne confondons pas les deux, en rien misérabiliste, est vraiment un souci de beauté et d'équilibre et la volonté de toute une maison de rendre la vie à une œuvre. Je signale quand même pour mémoire et pour les auditeurs qui auraient la chance de venir, car on signale à l'Opéra de Marseille beaucoup de locations en provenance des USA. Il y a donc des gens qui vont traverser l'Atlantique pour venir découvrir la Chartreuse de Parme. Eh bien, si des auditeurs en ont l'envie et la possibilité, l'Opéra de Marseille associe aux représentations de la Chartreuse de Parme un concert public gratuit qui sera donné à 16h le samedi 11 février dans l'auditorium de la bibliothèque de l'Alcazar et qui est consacré à d'autres œuvres d'Henri Sauguet. On y entendra le divertissement de chambre de 1931 et une œuvre qui est un point culminant dans l'inspiration du compositeur, qui est la cantate « L'oiseau a vu tout cela » pour baryton et orchestre à cordes sur un poème de Jean Cayrol, qui est une œuvre de 1960. Donc beaucoup de choses autour d'Henri Sauguet pour que l'ensemble des auditeurs, le public marseillais et non marseillais, puissent peut-être mesurer tout à coup la dimension d'un compositeur que nous avons trop tendance à réduire aux forains. Et à cette valse des forains qui pourrait être un fort beau thème mélodique, n'en est pas moins un thème qu'Henri Sauguet ne voulait pas conserver. On ne sait pas toujours que la composition des forains a été entreprise très vite. Henri Sauguet avait pratiquement 15 jours pour mener à bien la partition chant piano de l'ensemble du ballet. Et chaque soir, Roland Petit, Christian Bérard, Gabriel Dussurgé venaient chez lui en quelque sorte grappiller ce qui avait été écrit pendant la journée. Jusqu'au soir où ils sont arrivés, Henri Sauguet a dit « Aujourd'hui... » c'est pas venu, voilà. Je n'ai rien à proposer. Et Bérard, qui était l'ami le plus intime, qui pouvait donc tout se permettre chez Sauguet, dit « Mais il y a quelque chose sur ton piano. » Il dit « Oui, écoute, c'est une valse, mais vraiment, je peux pas garder ça, c'est un peu faible, c'est un peu facile. » Et Bérard, d'un doigt, a commencé à caresser la valse, a demandé à Sauguet de la jouer en disant « Écoute, Henri, si tu te prives de ce succès, si tu te prives de ça, tu es un imbécile, car tu te prives de ce qui peut devenir ton plus grand succès. Tu vas garder cette valse, tu vas la garder et nous allons l'emporter. » C'est comme ça que c'est devenu le thème central du ballet. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et nous avons là, à travers l'initiative de l'Opéra de Marseille, enfin une occasion qui est donnée d'explorer un tout petit peu les sentiers de la forêt. Ceci dit, Les Caprices de Marianne, autre ouvrage lyrique de grande importance, ont connu récemment deux productions quasiment jumelles, et même une édition DVD. Mais il était temps que la Chartreuse de Parme et enfin la chance de rencontrer son public, et cette chance aujourd'hui lui est offerte. Souhaitons simplement que le public soit au rendez-vous et que, j'allais dire, qu'il soit à la hauteur de cette chance. Je ne sais pas si un public peut être à la hauteur de cette chance, mais on ne redira jamais assez à quel point être public, c'est pas seulement...
comporte aussi des devoirs.
C'est aussi un devoir, celui de ne pas toujours penser que c'est à la musique de venir à vous, mais parfois de faire la démarche les bras ouverts et d'aller vers une musique, au demeurant ici, éperdument lyrique, avec ce déploiement mélodique continu. Il faut quand même prévenir les auditeurs. Combien pourront être surpris ceux qui viendront écouter la Chartreuse en pensant trouver un opéra à numéro avec des grands airs effectivement bien délimités. Car toute la finesse d'Henri Sauguet, c'est cette mélodie continue. C'est cette conversation lyrique qui jamais ne s'arrête, comme dans le Capriccio de Richard Strauss, et qui va sans cesse se nuancer de l'aria à l'arioso jusqu'au récitatif, sans jamais se redire. Il n'y a pas dans Chartreuse de Parme de thème mélodique récurrent. Combien seront déçus ceux qui ont l'habitude d'écouter l'ensemble du maillage, de leitmotiv d'un opéra, en se disant « même si je ne comprends pas tout, j'ai une sorte de carte routière ou de GPS qui me permet de savoir quel est le personnage qui rentre ou quel est l'état d'esprit qu'on traverse ». Il n'y a rien de tel dans la Chartreuse de Parme. Et ce n'est pas une faiblesse de constitution, c'est une volonté délibérée. Car les personnages ne cessent pas d'évoluer et de gagner en profondeur, en même temps que le compositeur, et peut-être en même temps que l'auditeur et le spectateur. Il était donc logique pour Sauguet de ne pas associer un thème à Fabrice, un thème à Clélia, un thème à Gina, mais que la musique soit en perpétuel renouvellement, et qu'elle manifeste déjà, entre 1927 et 1939, ce credo qu'Henri Sauguet formulait justement dans sa toute dernière apparition télévisée chez Jacques Chancel, lorsque Chancel lui posait la question « Et que devrait être pour vous l'idéal de la musique ?» Et ce vieil homme qui se sait parvenu au terme de sa vie, lui qui a confié quelques années avant à Micheline Banzé, vous savez, Maintenant, ça vous paraîtra sans doute un peu ridicule, surtout venant d'un monsieur à cheveux blancs comme moi, mais avant, quelquefois, la musique me mettait en joie, et enfant, je me mettais à rire. Maintenant, elle me fait pleurer lorsque je l'aime. Alors, ça paraît toujours un peu ridicule de voir ce vieux monsieur qui se laisse aller à des larmes. Eh bien, c'est le même homme qui déclare à Jacques Chancel dans Figure, à la question « Que devrait être pour vous l'idéal de la musique ?» Il se donne une petite seconde de réflexion et il répond « Qu'elle soit toujours en renouvellement, que tout soit toujours nouveau et libre. » Et c'est peut-être cet idéal qu'il a tenté de réaliser et qu'il a réalisé, je le pense, subjectivement, dans cet ouvrage qui va bientôt se livrer, on espère, à la joie de la redécouverte d'un public large et enthousiaste.
Alors donc, tous à Marseille, du 8 au 14 février pour la Chartreuse de Parme. Les représentations ont lieu les 8, 10 et 14 février en soirée, le dimanche 12 février en matinée à 14h30. Un mot quand même, on va citer juste la distribution et la production, il le faut. La mise en scène est signée de René Auffan, les décors de Bruno de Lavener, les costumes de Katia Duflo et les lumières de Laurent Castin et les chanteurs et les chanteuses.
Un beau plateau.
Un très beau plateau avec Nathalie Manfrino, avec Marie-Ange Todorovitch, avec Sophie Pongiclis, avec Anaïs Constant, Sébastien Guèze, Nicolas Cavalier, Jean-Philippe Lafont, Éric Huchet, Jacques Calatayud, Antoine Garcin, Bruno Comparetti et Frédéric Leroy. Merci beaucoup Lionel de nous avoir apporté tant de passion et tant d'informations sur Henri Soguet, la Chartreuse de Parme. Il faudra qu'on se revoie pour parler de l'autre partie de l'œuvre.
Peut-être de l'autre versant qui découle de cette prise de conscience qu'est la Chartreuse de Parme.
Merci beaucoup.
Merci.
Mes frères, pardonnez mon retard, pardonnez ma faiblesse. Je dois ce soir prêcher pour la dernière fois.
Pour la dernière fois, mon Dieu, serait-ce irrévocable?
Pour la dernière fois, mon Dieu, serait-ce
sur la pitié qu'une âme généreuse doit avoir pour un malheureux, même s'il est coupable. Malheureux, je voudrais vous le peindre, mais hélas, lorsque je pense à lui, ma voix se paralyse, je tremble, mon cœur se brise, je ne sais que le plaindre. Et que pleurer toutes les larmes de mes yeux. Ceux qui souffrent me comprendront. Pleurez, pleurez sur sa misère et sur son abandon. Les larmes sont une prière. Depuis longtemps, la pauvre âme est sevrée de tout amour et de toute tendresse. sa cause est-elle désespérée?
Sainte, sainte, Madame de l'Unité, pour lui, Sainte, Madame de l'Unité, pour lui, pitié pour lui.
Pitié pour lui, pitié pour notre frère. Sur la terre. Et c'est vers elle, vers elle, que jamais on ne prie en vain, vers elle. Partage et console toute peine. Que dans un élan d'espérance surhumaine, je tords pour lui le
thank you.
jusqu'à présent. À tout jamais, je dois me taire. Je vous avoue très humblement que je suis bien ce malheureux dont les tourments et la misère appellent l'infini miséricorde de notre Seigneur et de sa Sainte Mère. Je vous demande, mes frères, de très ardentes prières. N'oubliez pas
cobuzz.com. Rencontre par Yves Rézel.